Chapitre 69. Dolman Island, mardi 16 juin 1981. Saul coupa le moteur et laissa le hors-bord dériver doucement jusqu'au quai. Un feu vert clignota, transmettant son message futile en direction de l'océan désert. Saul amarra le bateau, lança le sac en plastique sur le quai, puis sauta à son tour, mettant un genou à terre et se tenant prêt à tirer. Le quai et ses environs immédiats étaient déserts. Des chariots électriques garés sur la route en asphalte qui longeait le rivage en direction du sud attendaient d'hypothétiques passagers. Son bateau était la seule embarcation amarrée au quai. Saul jeta le sac par-dessus son épaule et se dirigea prudemment vers les arbres. Même si la majorité des hommes de Barents fouillaient le nord de l'île à sa recherche, il était sûr que les abords du manoir étaient bien protégés. Il trotta dans l'obscurité qui régnait entre les arbres, s'attendant d'un instant à l'autre à recevoir une balle dans le corps. Rien ne bougeait en dehors des frondaisons agitées par la brise. Il commençait à apercevoir les lumières du manoir. Son seul objectif présent était d'y parvenir vivant. Live Oak Lane n'était pas éclairé. Saul se rappela la scène que Mix lui avait décrite, les lanternes japonaises allumées en l'honneur des dignitaires et des VIP. Mais cette nuit, l'allée gazonnée était plongée dans les ténèbres. Il progressa lentement, allant d'arbre en arbre, de buisson en buisson. Au bout d'une demi-heure, il était arrivé à mi-chemin du manoir sans avoir aperçu un seul garde. Soudain, il se figea, en proie à une terreur plus profonde que la peur de la mort. Et si Barents et Willy étaient déjà partis? C'était fort possible. Barents n'était pas du genre à s'exposer au danger. Saul comptait bien utiliser à son profit la confiance en soi du milliardaire. Toute personne l'ayant approché, Saul y compris, était conditionnée pour ne lui faire aucun mal. Mais l'intervention de Willy à Philadelphie et l'improbable évasion de Saul avaient peut-être modifié les données du problème. Inconscient du danger, Saul serra son fusil contre son torse et se mit à courir entre les rangées d'arbres, le sac cognant son épaule blessée. Il n'avait parcouru que 200 mètres et commençait à halter lorsqu'il se figea, mit un genou à terre et leva son arme. Un corps nu gisait face contre terre au pied d'un petit chêne vert. Saul jeta un coup d'œil à droite et à gauche, changea le sac de position et sprinta vers le corps. La femme n'était pas tout à fait nue. Une chemise déchirée et ensanglantée lui recouvrait un bras et une partie du dos. Elle gisait sur le ventre, le visage dissimulé par ses cheveux, les bras en croix, les doigts agrippant la terre, et à en juger par la position de sa jambe droite, elle avait dû être abattue en pleine course. Saul jeta autour de lui un regard soupçonneux, se tint prêt à tirer, et lui palpa la nuque en quête d'un pouls. Elle tourna vivement la tête, et Saul eut le temps d'apercevoir les yeux fous et la bouche grande ouverte de Miss Sewell avant que ses dents ne se referment sur sa main gauche. Elle émit un bruit qui n'avait rien d'humain. Saul grimaça et leva le M16 pour lui asséner un coup de crosse, mais Jensen Luard tomba des branches comme une masse et lui plaqua un bras puissant sur la gorge. Saul hurla et lâcha une rafale de tir automatique, tentant de viser Luard, mais ne réussissant qu'à déchiqueter le feuillage au-dessus de lui. Luard éclata de rire et lui arracha le M16 des mains, le jetant à 6 mètres de là. Saul se débattit, essaya de glisser son menton entre sa gorge et le bras de Luard qui menaçait de l'étrangler, essaya d'arracher sa main gauche des mâchoires de la femme. Il leva la main droite au-dessus de son épaule, cherchant à atteindre le visage et les yeux du noir. Luard éclata de rire une nouvelle fois et souleva Saul dans les airs. Il sentit la chair de sa main gauche se déchirer, puis le noir pivota sur lui-même et le lança à 2 ou 3 mètres de là. Saul atterrit sur sa jambe blessée, roula sur son épaule en feu et courut à 4 pattes vers le sac où se trouvait le colt et l'Uzi. Du coin de l'œil, il aperçut Luard, le corps luisant de sueur et de sang, qui avait pris une pose de catcheur. Miss Sewell était à 4 pattes, les cheveux en bataille, prête à bondir. Du sang coula sur son menton lorsqu'elle cracha un morceau de chair. Il était à moins d'un mètre du sac lorsque Luar fonça sur lui, rapide et silencieux, et lui expédia un coup de pied dans les côtes. Saul roula sur lui-même plus de 4 fois, sentant ses poumons se vider d'air et son corps d'énergie, et il essaya de se redresser alors même que son champ de vision se réduisait à un long tunnel obscur, au centre duquel grimaçait le visage de Luar. Le noir lui décocha un nouveau coup de pied, jeta son sac dans les ténèbres et la grippa par les cheveux. Il le souleva jusqu'à lui et le secoua comme un prunier. « Réveille-toi, petit pion, » dit-il en allemand. « Le temps est venu de jouer. » Les lumières de la grande salle éclairaient 8 rangées de cases. Chacune d'elles était un carreau noir ou blanc d'1,20 m de côté. Tony Harrod avait devant lui un échiquier large de près de 10 mètres. Les hommes de Barent chuchotaient dans l'ombre, et un bourdonnement étouffé montait de l'équipement radio. Mais seuls les membres de l'Island Club et leurs assistants se tenaient en pleine lumière. « Cette partie a été fort intéressante jusqu'ici, » dit Barent. « Mais j'ai pensé à plusieurs reprises qu'elle ne pouvait s'achever que par un résultat nul. »«
Ya !»
dit Willy en émergeant des ombres. Il était vêtu d'un complet blanc et d'un pull à col roulé blanc qui lui donnait l'aspect d'un prêtre en négatif. Les plafonniers faisaient luire ses rares cheveux blancs et accentuaient les ombres de son visage taillé à la serpe.
« J'ai toujours eu un faible pour la défense Tarrasch. Elle était très en vogue durant ma jeunesse et s'est quelque peu démodée depuis, mais je la considère toujours comme une tactique efficace, à condition d'utiliser les variations appropriées. »
C'était un jeu de position jusqu'au 29e coup. Mr. Borden m'a offert le pion de la tour de son roi et je l'ai pris.
« Un pion empoisonné !» dit Willy en fronçant les sourcils.
Barent sourit. « Peut-être aurait-il été fatal à un joueur moins expérimenté. Mais à la fin de l'échange, il me restait 5 pions contre 3 à Mr. Borden.
« Et un fou !»
dit Willy en se tournant vers Jimmy Wensutter, toujours debout près du bar.
« Et un fou !» acquiesça Barent.
Mais 2 pions peuvent triompher d'un fou en fin de partie.
« Qui c'est qui gagne ?»
demanda Kepler. Il était ivre-mort. Barent se frictionna le cou.
« Ce n'est pas aussi simple, Joseph. Pour le moment, les Noirs, c'est moi, ont un avantage certain. Mais les choses évoluent vite en fin de partie. »
Willy s'avança sur l'échiquier.
« Voulez-vous que nous échangions nos pièces, Herr Barent ?»
Le milliardaire eut un petit rire.
« Nein, mein Herr. » « Alors, allons-y !»
Willis se tourna vers les hommes qui se tenaient à la lisière de l'échiquier. Swanson murmura quelques mots à l'oreille de Barent.
« Un instant. »
Il se tourna vers Willy. « Qu'est-ce que vous mijotez encore ?»«
Laissez-les entrer !» dit Willy.
« Pourquoi le ferais-je ? » ?»«
Ce sont vos hommes. »«
Exactement.
Comme vous l'avez sûrement déjà constaté, mon noir est sans armes. Et j'ai fait venir mon pion juif pour qu'il me serve comme au bon vieux temps. »«
Il y a une heure, vous nous conseilliez de le tuer. » Willy haussa les épaules.
« Tuez-le, si bon vous semble, Herr Barent. De toute façon, il est déjà presque mort. » Mais il me semble fort ironique qu'il ait fait tout ce chemin rien que pour me servir une nouvelle fois.
Vous prétendez toujours qu'il est venu sur l'île de son propre chef ?
Demanda Kepler.
Je ne prétends rien du tout. Je demande l'autorisation de l'utiliser pour cette partie. Tel est mon bon plaisir.
Willy adressa à Barent un sourire entendu.
De plus, Herr Barent, vous avez pris soin de conditionner le juif. Vous n'aurez rien à craindre de lui-même s'il était armé jusqu'aux dents.
« Pourquoi est-il venu ici, alors ?» Willy éclata de rire.
« Pour me tuer !»« Allez, décidez-vous, j'ai envie de jouer. »
« Et la femme ?»«
C'était le pion de ma reine, je vous l'offre. »
« Le pion de votre reine ? Est-ce qu'il est toujours sous son contrôle ?»«
Ma reine n'est plus sur l'échiquier. » Mais vous pourrez lui poser la question quand elle sera là.
Barent claqua des doigts, et une douzaine d'hommes armés s'avancèrent vers lui.
« Faites-les entrer. Si leur comportement est suspect, tuez-les. Dites à Donald que je risque de m'envoler de l'Antoinette plutôt que prévu. Dites aux patrouilles de regagner le port et doubler la garde au sud de la zone de sécurité. »
Tony Harrod n'aimait pas du tout la tournure que prenaient les événements. Apparemment, il n'avait aucun moyen de quitter cette putain d'île. L'hélicoptère de Barent l'attendait derrière la porte-fenêtre, le jet de Willy près de la piste d'atterrissage, et même Sutter avait un avion à sa disposition. Mais pour autant qu'il puisse en juger, Maria Chen et lui étaient coincés. Et voilà que débarquait un nouveau peloton de garde escortant Jensen Luard et les deux pions que Harrod avait ramenés de Savannah. Luard était tout nu, une montagne de muscles noirs. La femme ne portait qu'une chemise déchirée et ensanglantée qu'elle avait dû piquer à un garde. Son visage était maculé de terre et de sang, mais c'était surtout ses yeux qui inquiétaient Harrod. Ils étaient recroquevillés de façon presque comique derrière le voile de ses cheveux sales, deux iris ronds bordés de sclérotiques. Mais si la femme avait l'air mal en point, le type dénommé Saul était dans un état carrément lamentable. Apparemment, c'était grâce à la poigne de Luard qu'il réussissait encore à rester debout devant Barent, ce qui tenait encore du miracle. Son visage était en sang, et son treillis virait à l'écarlate au niveau du torse et de la cuisse gauche. Sa main gauche semblait avoir été broyée par un étau. Des gouttes de sang en tombaient sur un carreau blanc. Mais son regard n'exprimait que défiance et vivacité. Harrod ne comprenait rien à ce qui se passait. De toute évidence, Willy connaissait cet homme et cette femme, et il avait même avoué que le juif était un de ses anciens pions. Mais Barent semblait disposé à croire que ces deux prisonniers en piteux état étaient venus sur l'île de leur propre chef. Willy avait affirmé plus tôt que le juif avait été conditionné par Barent, mais ce n'était pas le milliardaire qui l'avait fait venir sur l'île. Il semblait le considérer comme un agent indépendant. Et la conversation qu'il eut avec la femme s'avéra encore plus bizarre. Harrod était plongé dans la plus totale perplexité.
« Bonsoir, docteur Lasky, » dit Barent à l'homme blessé. « Navré de ne pas vous avoir reconnu plus tôt. »
Lasky resta muet. Son regard se posa sur Willy, assis dans un grand fauteuil, et il ne broncha pas. Même lorsque Jensen Luard le força à tourner la tête pour faire face à Mr. Barent.
« C'est votre avion qui a atterri sur la plage nord il y a quelques semaines, » reprit Barent.
« Oui, » dit Lasky sans quitter Willy des yeux.
« Une excellente ruse. Dommage qu'elle n'ait pas réussi. Admettez-vous être venu ici pour nous tuer ?»«
Pas vous. Seulement lui. »
Il ne désigna pas Willy, mais ce n'était pas nécessaire.
« Oui. »
Barent se frotta les joues et se tourna vers Willy.
« Eh bien, docteur Lasky, avez-vous toujours l'intention de tuer notre invité ?»«
Oui. »«
Êtes-vous inquiet, Herr Borden ?»
Willy se contenta de sourire. Barent fit alors une chose incroyable. Quittant le siège où il s'était installé juste avant l'arrivée des trois pions, il se dirigea vers la femme, s'empara de sa main crasseuse et la baisa délicatement.
« Herr Borden m'informe que j'ai l'honneur de m'adresser à Miss Melanie Fuller, »
dit-il d'une voix plus onctueuse que de la margarine fondue.
« Est-ce exact ?»
La femme aux yeux fous sourit et minauda.
« Absolument, »
dit-elle avec un fort accent sudiste. Elle avait du sang séché sur les dents.
« Quel plaisir de faire votre connaissance, Miss Fuller, »
dit Barent sans lui lâcher la main.
« Je suis grandement déçu que nous ne nous soyons pas rencontrés plus tôt. Puis-je me permettre de vous demander ce qui vous amène sur notre petite île ?»«
Simple curiosité, monsieur. »
L'apparition aux yeux fous bougea légèrement, et Harrod aperçut sa toison pubienne entre les pans de sa chemise. Barent se redressa sans cesser de sourire ni de ploter la main crasseuse de la femme.
« Je vois. Il était inutile de venir incognito, Miss Fuller. Vous serez la bienvenue sur cette île quand vous le souhaiterez, Et je suis sûr que les... installations du manoir vous paraîtront beaucoup plus confortables.
Merci, monsieur.
Le pion sourit.
Je suis indisposé pour le moment, mais je m'empresserai de profiter de votre invitation dès que ma santé me le permettra.
Excellent.
Barent lui lâcha la main et regagna son fauteuil. Les gardes se détendirent et abaissèrent leur housie.
Nous allions achever une partie d'échecs. Nos nouveaux invités doivent nous rejoindre.
Miss Fuller, voulez-vous me faire l'honneur de laisser jouer votre pion dans mon camp? Je vous promets qu'aucune menace de capture ne viendra gâcher votre plaisir.
La femme lissa sa chemise en lambeaux et passa une main qui se voulait délicate dans ses cheveux en bataille, dégageant en partie son front.
C'est à moi que vous faites un honneur, monsieur.
Merveilleux. Herr Borden, je suppose que vous désirez utiliser vos deux pièces.
Yeah, mon vieux pion me portera chance.
Bien. Nous reprenons donc au 36e coup?
Willy hocha la tête.
Je venais de prendre votre fou, puis vous avez entrepris de recentrer votre roi.
Ah, je vois que mes stratégies sont transparentes aux yeux d'un maître.
Yeah, en effet.
Jouons.
Nathalie poussa un soupir de soulagement lorsqu'ils émergèrent de la masse nuageuse quelque part à l'est de Sapelo Island. Le vent secouait toujours le Cessna, et les étoiles éclairaient un océan constellé d'écume, mais au moins n'avait-elle plus la sensation de se trouver sur des montagnes russes.
« Encore 3/4 d'heure de vol !» dit Mix.
Il se passa une main sur le visage.
« Les vents contraires nous ont retardés d'une demi-heure !»
Jackson se pencha vers Nathalie et lui murmura « Tu crois vraiment qu'on va nous laisser atterrir ?» Nathalie colla sa joue à la vitre.
« Si la vieille agit comme elle l'a promis, peut-être. »
Jackson eut un reniflement qui se voulait un rire.
« Et tu penses qu'elle le fera ?»«
Je ne sais pas. Le plus important, à mon avis, c'est de tirer Saul de ce guépier. Nous avons fait tout notre possible pour convaincre Mélanie qu'il était dans son intérêt d'agir selon nos plans. »«
Oui, mais elle est folle. Les fous n'agissent pas toujours dans leur intérêt, ma vieille. »
Nathalie sourit. « Ce qui explique sans doute pourquoi nous sommes ici, pas vrai ?» Jackson lui posa une main sur l'épaule.
« Tu as pensé à ce que tu allais faire si Saul est mort ?» demanda-t-il doucement.
Nathalie eut un hochement de tête presque imperceptible.
« On va le sortir de là. Ensuite, je retournerai à Charleston pour tuer ce monstre. »
Jackson se redressa, s'étendit sur la banquette arrière et s'endormit au bout d'une minute. Nathalie regarda l'océan jusqu'à en avoir mal aux yeux, puis se tourna vers le pilote. Mix la regardait d'un air bizarre. Voyant qu'elle lui rendait son regard, il toucha du doigt la visière de sa casquette et concentra toute son attention sur le tableau de bord. Grièvement blessé, luttant de toutes ses forces pour ne pas perdre conscience, Saul était néanmoins ravi de se trouver là. Il ne quittait jamais l'Oberst des yeux plus de quelques secondes. Après quelques 40 ans de quête, Saul Lasky se trouvait dans la même pièce que l'Oberst Wilhelm von Borchert. La situation n'était guère idéale. Saul avait joué le tout pour le tout, laissant Luard le terrasser, alors qu'il aurait pu s'emparer à temps de ses armes, dans l'espoir d'être amené en présence de l'Oberst. C'était le scénario qu'il avait exposé à Nathalie quelques mois plus tôt, alors qu'il partageait une tasse de café en contemplant le crépuscule israélien au parfum d'orange, mais les conditions présentes n'étaient guère idéales. Saul aurait une chance d'affronter l'assassin nazi, seulement si celui-ci était le seul à tenter d'user sur lui de son talent psychique. Mais tous les mutants Atavik étaient présents. Barren, Sutter, Kepler, et même Harrod et le pion de Mélanie Fuller. Et Saul redoutait que l'un d'entre eux ne tente de s'emparer de son esprit, réduisant à néant ses maigres chances de surprendre l'Oberst. De plus, lorsqu'il avait fait part de son scénario à Nathalie, Saul avait toujours décrit l'affrontement final comme un duel dans lequel il aurait l'avantage physique. À présent, il lui fallait mobiliser toutes les ressources de sa volonté pour ne pas s'effondrer. Sa main gauche était blessée et inutilisable, une balle était logée près de sa clavicule, tandis que l'Oberst paraissait en parfaite condition physique,
lui rendait 15 bons kilos de muscles et était entouré de deux pions superbement conditionnés et d'une demi-douzaine de personnes qu'il pourrait utiliser à son gré. Et les gardes au service de Barent abattraient sûrement Saul de sang-froid s'il lui prenait l'envie de faire un pas sans en avoir reçu l'ordre. Mais Saul était heureux. Pour rien au monde, il n'aurait souhaité se trouver ailleurs. Il secoua la tête pour mieux se concentrer sur ce qui se passait. Barent et l'Oberst étaient assis, et le milliardaire disposait les pièces humaines sur l'échiquier. Pour la deuxième fois de la journée, Saul eut une expérience hallucinatoire. La grande salle ondoya comme la surface d'un étang, et il vit soudain devant lui le bois et la pierre d'un manoir polonais, des Onderkommandos vêtus de gris, qui festoyaient au pied de tapisseries plusieurs fois centenaires, sous les yeux de Der Alte, assis dans son gigantesque fauteuil, perdu dans son uniforme de général, pareil à une momie flétrie, enveloppée de lambeaux trop grands pour elle. Les ombres projetées par les torches dansaient sur les murs, le carrelage et les crânes rasés des 32 prisonniers juifs épuisés qui se tenaient au garde-à-vous entre deux officiers allemands. Le jeune Oberst écartait de son front une mèche de cheveux blonds, posait le coude sur son genou et souriait à Saul. L'Oberst sourit à Saul.
« Willkommen, Jude !»«
Allons, allons, » dit Barent, « nous devons tous jouer.
Joseph, veuillez vous placer sur la case F6. »
Kepler recula d'un pas, le visage horrifié.
« Vous déconnez, bon Dieu !»
Il heurta violemment le buffet, renversant plusieurs bouteilles.
« Pas le moins du monde, » répliqua Barent. « Veuillez vous dépêcher, Joseph. Herr Borden et moi souhaitons conclure cette partie le plus tôt possible. »
« Allez au diable !»
Kepler serra les poings et les tendons saillirent sur sa gorge.
« Je ne vais pas me laisser utiliser comme un pion minable pendant que vous... »
Il s'interrompit comme un disque défectueux dont on aurait brusquement soulevé le saphir. Ses lèvres remuèrent l'espace d'une seconde sans émettre le moindre son. Son visage vira à l'écarlate, au pourpre, au noir, puis il tomba de tout son long sur le carreau. On aurait dit que des mains invisibles lui serraient les bras derrière le dos, que des cordes invisibles lui liaient les chevilles. Puis il se mit à ramper, le corps agité de spasmes, tel un ver humain sorti de l'imagination d'un enfant au cerveau dérangé, se cognant menton et poitrine à chaque mouvement. Joseph Kepler parcourut ainsi le carrelage sur une longueur de plus de 8 mètres, y laissant un sillage de sang, avant d'arriver sur la case F6. Lorsque Barent le libéra, ses muscles eurent un frémissement visible à l'œil nu. Une giclée d'urine inonda son pantalon et coula sur le carreau.
« Veuillez vous relever, Joseph, » dit doucement Barent. « Nous souhaitons commencer la partie. »
Kepler se mit péniblement à genoux, regarda le milliardaire d'un air hébété, puis se redressa en silence sur ses jambes flageolantes. Son luxueux pantalon italien était souillé de sang et d'urine.
« Comptez-vous nous utiliser tous de cette manière, frère Christian ?»
demanda Jimmy Wayne Sutter. L'évangéliste se tenait au bord de l'échiquier de fortune. Son épaisse crinière blanche luisait sous l'éclat des projecteurs. Barent sourit.
« Je ne vois aucune raison d'utiliser qui que ce soit, James. » pourvu que les pièces ne fassent pas obstacle au bon déroulement de la partie.
« Et vous, Herr Borden ?»«
Moi non plus. Venez ici, Sutter. » »«
En tant que fou, vous êtes la seule pièce maîtresse survivante à l'exception du roi. Prenez place à gauche de la case initiale de la reine. »
Sutter leva la tête. Sa chemise de soie était imbibée de sueur.
« Est-ce que j'ai le choix ?» murmura-t-il.
Sa voix d'orateur était rauque et éraillée.
« Nein, vous devez jouer. Venez. »
Sutter se tourna vers Barent.
« Je veux dire, ai-je la possibilité de choisir mon camp ?»
Barent arqua un sourcil. « Vous êtes depuis longtemps un fidèle serviteur de Herr Borden. Désirez-vous à présent changer de camp, James ?»«
Je ne retire nul plaisir de la mort du pécheur. » « Croyez en notre Seigneur Jésus-Christ et vous serez sauvés. »
Évangile selon saint Jean, chapitre 3, versets 16 et 17.
Barend gloussa et se frotta le menton.
« Herr Borden, votre fou souhaite apparemment passer dans l'autre camp. Voyez-vous une objection à ce qu'il achève la partie du côté des Noirs ?»
Le visage de l'Oberst était aussi renfrogné que celui d'un gosse capricieux.
« Prenez-le et qu'il aille au diable. Je n'ai pas besoin de cette grosse tente. »«
Venez, James, » dit Barent à l'évangéliste en sueur. « Placez-vous à gauche du roi. »
Il désigna une case blanche à une rangée de celles où le pion du roi noir s'était trouvé en début de partie. Sutter se mit en position à côté de Kepler. Saul eut une lueur d'espoir à l'idée que la partie puisse se dérouler sans que les vampires psychiques utilisent leur pouvoir sur leur pion. Tout ce qui retarderait l'instant où l'Oberst tenterait de pénétrer dans son esprit était le bienvenu. L'Oberst se pencha sur son fauteuil massif et eut un petit rire.
Puisque me voilà privé de mon allié intégriste, il m'amuserait assez de promouvoir mon vieux pion au rang de fou.
Bauer, verstehst du?
Viens, juif, prends ta place.
Sans attendre qu'on l'y force, Saul s'empressa de traverser le carrelage pour se placer sur une case noire de la première rangée. Il se trouvait à moins de 3 mètres de l'Oberst, mais Luard et Reynolds protégeaient leur maître, et une vingtaine de gardes surveillaient le psychiatre de près. Ses blessures le faisaient atrocement souffrir. Sa jambe gauche était raide, son épaule en feu, mais il s'efforça de n'en rien laisser paraître.
« Comme au bon vieux temps, hein, petit pion ?» dit l'Oberst en allemand.
« Excusez-moi, je veux dire, Herr Fou !»
Il sourit de toutes ses dents.
« Pressons, il me reste 3 pions à placer. Jensen, en E3, bitte. Tony, en A3. Tom ira en B5. »
Saul regarda Luard et Reynolds se mettre en place. Harrod ne bougea pas.
« Je ne sais même pas où est A3, » dit-il.
L'Oberst eut un geste agacé.
« La deuxième case, devant celle de la tour de la reine, schnell !»
Harrod battit des paupières, puis se dirigea vers une case noire, à gauche de l'échiquier.
« Placez vos 3 derniers pions !» dit l'Oberst à Barent.
Le milliardaire opina.
« Mr. Swanson, je vous prie, à côté de Mr. Kepler. »
Le G-man moustachu regarda autour de lui, posa son arme par terre, et alla se placer sur une case noire, derrière Kepler et sur sa gauche. Saul se rendit compte que c'était le pion du cavalier du roi et qu'il n'avait pas bougé de sa case initiale.
« Miss Fuller, » reprit Barent, « si vous voulez bien conduire votre charmant pion sur la case initiale du pion de la tour de la reine.
» Oui, c'est cela. »
La créature, qui avait jadis été Constance Sewell, s'avança d'un pas hésitant et alla se placer 4 cases devant Harrod.
« Miss Chen, » poursuivit Barent, « à côté de Miss Sewell, s'il vous plaît. »«
Non !»
s'écria Harrod alors que Maria Chen s'avançait vers l'échiquier.
« Elle ne joue pas !»«
Yah !» intervint l'Oberst.
« Sa beauté ne peut que rehausser l'intérêt de la partie.
Nishvar ?»«
Non !»
Harrod se tourna pour faire face à l'Oberst.
« Elle n'a rien à voir avec cette histoire !»
Willy sourit et pencha la tête vers Barent.
« Comme c'est touchant.
Je suggère que nous autorisions Tony à changer de place avec sa secrétaire, si sa position est... menacée.
Êtes-vous d'accord, Herr Barent ?»«
Oui, oui. Ils peuvent échanger leur place, si Harrod le désire.
À condition que cela ne perturbe pas le déroulement de la partie.
Ne traînons pas. Nous devons encore placer nos rois. »
Barent se tourna vers ses gardes du corps et ses assistants.
« Nine !»
L'Oberst se leva et s'avança sur l'échiquier.
« Les rois, c'est nous, Herr Barent !»«
Que voulez-vous dire, Willy ?»
demanda le milliardaire d'une voix lasse. L'Oberst écarta les bras et sourit.
« Cette partie est très importante. Nous devons montrer à nos amis et collègues que nous encourageons leurs efforts. »
Il prit sa place, 2 cases à droite de Jensen Luard.
« En outre, Herr Barent,
Les rois ne peuvent pas être pris. »
Barent secoua la tête, mais se leva, et alla se placer sur la case des six, à côté du révérend Jimmy Wayne Sutter. Celui-ci tourna vers lui des yeux vitreux et dit à voix haute,
« Dieu dit à Noé, pour moi la fin de toute chair est arrivée, car à cause des hommes, la terre est emplie de violence et je vais les détruire avec la terre.
« Oh, ferme ta gueule, vieille pédale !»
s'écria Tony Harrod.
« Silence !»
beugla Barent. Durant la brève période de calme qui suivit, Saul essaya de visualiser l'échiquier tel qu'il se présentait à l'issue du 35e coup. Saul était un trop modeste joueur pour prévoir avec certitude l'évolution de la partie. Il savait qu'il allait assister à un combat entre deux maîtres. Mais il comprenait néanmoins que Barent avait retiré un avantage certain des échanges précédents et qu'il semblait sûr de l'emporter. Saul ne voyait pas comment les Blancs pourraient réussir à obtenir mieux qu'une partie nulle, mais l'Oberst avait déclaré que Barent serait proclamé vainqueur dans un tel cas de figure. Une chose était sûre. En tant que seule pièce maîtresse, dans un camp qui ne comptait plus que trois pions, le fou allait être souvent joué, même à ses risques et périls. Saul ferma les yeux et s'efforça de refouler une soudaine vague de douleur et de faiblesse.
« Très bien, Herr Borden, » dit Barent à l'Oberst. « À vous de jouer. »